monde part à courir comme des poules pas de tête pour chercher l'argent qui, au fond, ne manque pas. Et donc, le grand mensonge, c'est que plutôt que de se demander si c'est vrai que l'argent manque, tout le monde se met à s'interroger sur où va-t-on prendre cet argent. Et là, c'est là qu'intervient le deuxième morceau de l'équation, la solution unique. On ne peut pas monter les impôts, c'est exclu parce que, tatati, compétitivité fiscale, nous sommes déjà les plus taxés, les contribuables sont pris à la gorge. Évidemment, on ne dit rien sur le fait qu'on a détaxé le capital financier et les classes supérieures depuis des années. Alors ça, on n'en parle pas non plus. Alors, il reste une seule solution, c'est piger dans les poches des étudiants et étudiantes. Plus le mensonge est gros, mieux il passe. Ils ont construit ce mensonge comme quoi il manquait de l'argent dans les universités. Et en fait, ça a été le justificatif pour en fait mettre en place ce qui était en fait la véritable finalité, c'est-à-dire une réforme du financement universitaire. Mais cette réforme, elle n'arrivait pas seule. Et il y a deux projets de loi du gouvernement depuis 2007 qui sont au feuilleton, qui visent à remplacer la régulation universitaire par deux tiers de membres issus des milieux des affaires. C'est un coup d'État managérial dans l'université pour donner le pouvoir aux gens d'affaires dans les conseils d'administration. Et le troisième morceau, c'est ce qu'on appelle l'assurance qualité, c'est-à-dire des mécanismes d'évaluation, des indicateurs de performance pour ajuster l'offre de programme aux besoins des marchés. Et ça, on ne l'avait pas encore, et ça a été réfléchi à l'automne et ça a été proposé durant ce conflit, avec aussi le RPR, qui est le remboursement proportionnel aux revenus, qui permet d'endetter massivement les étudiants et étudiantes. Et tous ces morceaux sont apparus dans l'espace des derniers, je dirais, 5 ans au Québec. On a vu apparaître là, de manière très, très cohérente toutes les pièces du puzzle pour construire une réforme néolibérale de l'enseignement supérieur. Et c'est même affiché par les ministres qui le disent, que c'est le projet de faire ça.
La famille, c'est le cœur et l'âme d'un peuple.
Jean Charest.
Et elle occupe une grande place dans notre plan économique.
Premier ministre du Québec.
Car les familles ont besoin qu'on les supporte et on va le faire. Avec 15 000 nouvelles places en garderie. Une banque de congés plus grande pour prendre soin de leurs proches. Ou encore un crédit d'impôt à la rénovation pour leur maison. Oui, j'ai un plan et j'ai la meilleure équipe pour le réaliser. Dites oui au plan pour l'économie du Québec.
Bon, évidemment, le combat étudiant a depuis longtemps débordé sur une contestation plus générale de l'autoritarisme politique et des politiques néolibérales en général. Les gens avec les casseroles, ils sortent pas juste sur leur perron parce que les étudiants veulent pas monter les frais. Il y a tout un enjeu qui est lié aussi à la corruption gouvernementale, au fait que le gouvernement est proche de la mafia, corrompu dans le dossier de la construction, de la nomination des juges. Il y a des pots de vin dans le secteur des routes, des infrastructures tombent en ruine. Les gens voient que dans tous les secteurs, ce gouvernement détruit le bien commun puis le patrimoine commun du Québec, brade ça aux plus offrants. Donc, les gens voient bien qu'on est dépossédé. Il y a ce sentiment, je pense, d'une dépossession. Par ailleurs, quelle alternative? Bon, pour certaines personnes, hein, évidemment, on voit que ça plafonne, le gouvernement ne veut pas négocier. Donc, certains voient dans les élections prochaines une porte de sortie. Le problème, c'est que au Québec, il y a un système électoral qui s'appelle le mode majoritaire uninominal à un tour. Il n'y a pas la proportionnelle, qui fait en sorte qu'on a une pression très forte au bipartisme, un peu comme aux États-Unis. Donc, nous avons deux grands partis majoritaires, c'est-à-dire le Parti québécois et le Parti libéral. Et le Parti québécois a adhéré, lui aussi, au néolibéralisme, quoi qu'il le fasse de manière, disons, moins décomplexée que ne le fait le Parti libéral, qui est le parti historique de la bourgeoisie canadienne anglaise et puis québécoise bourgeoise. Là. Le Parti québécois, il a intériorisé lui aussi le néolibéralisme. Donc, on a le choix entre un coup de pied dans le cul ou une claque sur la gueule. Hein, c'est-à-dire que c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Il y a une impasse à ce niveau-là. Et donc, les gens, je pense, sentent bien que s'il doit y avoir une alternative, il va falloir que ce soit quelque chose de pas mal plus profond que juste un show de chaises ou une vaudeville électorale, un jeu de chaises musicales électorales. Le problème, c'est que personne ne sait ce que c'est, ça. C'est-à-dire que nous, on a fait une révolution tranquille, et là, on vient de faire une insurrection tranquille. Et là, on est très pacifique au Québec. Donc, il y a eu quand même de la répression assez violente, je l'ai dit tantôt, des gens qui ont perdu des yeux, des crânes fracassés et tout. Mais somme toute, pour un mouvement qui est traité avec autant de mépris, un mépris historique de ce gouvernement, puis une violence, puis une répression, les gens sont étrangement sympathiques et souriants. Donc, c'est ça la grande force des Québécois, c'est ils sont incassables. C'est-à-dire qu'ils ils sont pas capables de faire la révolution, les Québécois, mais en même temps, on peut pas les briser non plus. Ils demeurent. Ils sont là. Ils durent. C'est un peuple qui est dans la durée, hein, qui est dans l'antichambre de l'histoire. Donc, et là, on arrive au bout où on pourrait peut-être réaliser ce qui a toujours été dans notre histoire comme un possible dont on parlait un peu avec espérance dans les années 60-70, c'était indépendance et socialisme. C'était à l'époque le mot d'ordre d'une certaine frange gauche du mouvement qui avait été écrasée par le Parti québécois au nom de l'unité des indépendantistes qui refusait de faire le débat sur la question sociale. Alors maintenant, on arrive au stade où, s'il doit se passer quoi que ce soit, on sait très bien que ça doit être une coalition vaste entre les mouvements écologistes, féministes, étudiants, mouvements sociaux en général, mouvements ouvriers. et avec l'idée d'une alternative.